divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Au micro Perry Willet, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver fidèles à notre émission. Nous nous retrouvons aujourd'hui depuis le mois d'août, car en effet, notre émission d'octobre, nous l'avons échangée, cédée à la Grande Loge féminine de France. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Thomas. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Vous êtes grand officier à la culture. Et dans le cadre de nos émissions sur les grandes figures de la Grande Loge de France, nous avions déjà parlé d'Adolphe Crémieux. Aujourd'hui, nous allons découvrir, grâce à vous, ou peut-être redécouvrir pour certains, le comte de Clermont. Et évidemment, qui mieux que vous pouvez parler de ce personnage peut-être un peu moins connu finalement du grand public, puisque vous venez de publier un ouvrage aux éditions Champs-Élysées d'Auville sur ce personnage, le comte de Clermont. Alors, Jean-Pierre, non seulement vous êtes grand officier à la culture, mais vous êtes un essayiste, un historien. Vous avez écrit près d'une trentaine d'ouvrages. Certains ont été consacrés à ce qui est convenu d'appeler la maçonnerie écossaise, ce qui se pratique en Grande Loge de France. Il y avait par exemple l'histoire de la Grande Loge de France, sur les archives, en collaboration avec Louis Trébuchet, aussi, que nous avions interviewé ici, et Patrick Jouin-Morin. Et plus récemment, l'essai Lumière et son, musique et franc-maçonnerie en France. Et d'ailleurs, à propos de la musique, nous avions fait ensemble une émission il y a 2 ans peut-être sur musique et franc-maçonnerie. Là déjà, on avait tordu le cou à quelques idées reçues sur, en particulier, notre frère Mozart. Mais aujourd'hui, nous parlons du comte de Clermont, qui a mené plusieurs vies. Il est à la fois abbé de Saint-Germain-des-Prés, puis en même temps, il a été général du roi. Il a été très actif pendant la guerre de 7 ans, on en parlera, et peut-être de ses conséquences. Il a créé la Société des Arts, il a inventé des festivals, etc. Bref, il était aussi, finalement, le camarade de jeu de son cousin Louis XV. Mais aussi, la tradition dit plutôt que c'était un libertin, plutôt amateur de jolies femmes. Mais c'est peut-être un peu réducteur, on minimise un peu son parcours et tout ce qu'il a pu faire, à la fois dans la société et pour la maçonnerie. C'est un peu l'objet de notre entretien. Qu'en est-il, Jean-Pierre ?
Absolument, c'est un prince du sang, c'est un homme qui échappe aux juridictions ordinaires. Il est difficile aujourd'hui d'expliquer ce qu'est un prince du sang. Et je pense que c'est un homme qui a cherché sa liberté dans une société qui ne l'était pas. Et qui, je pense, est arrivé par des activités protéiformes à la trouver. Et dans le cadre, évidemment, de l'esprit des Lumières qui était son époque dans laquelle il a baigné.
Mais on dit qu'il était quand même bienveillant. Vous évoquez aussi la bienveillance qu'il avait avec ses troupes, parce qu'il était aussi un général, un chef de guerre. À l'époque, les armées étaient dans un piteux état et pas toujours choyées par leurs généraux. Et lui, il avait cette image d'aimant non pas le peuple, parce que je pense qu'il en était un peu loin, mais en tout cas ceux qui étaient à côté de lui.
Voilà, il aimait ses soldats, il en était d'ailleurs très respecté, d'abord parce qu'il s'est exposé au front, enfin au feu comme on dit, et ensuite parce qu'il a quand même essayé d'améliorer leur bien-être, notamment la condition des hôpitaux qui était effroyable à l'époque, et allant jusqu'à effectivement un jour d'inspection s'apercevoir qu'on ne servait pas de la soupe mais de l'eau chaude, et il a fait immédiatement incarcérer le directeur de l'hôpital. Voilà, donc il y a effectivement une plus que de la bienveillance, de la compassion, de l'intérêt pour ses soldats qui d'ailleurs lui rendaient bien et auprès de qui il était très très populaire.
Voltaire disait de lui que c'était le prince de raison. Alors c'est un peu antinomique avec ce que l'on évoquait tout à l'heure, un libertin.
Alors libertin, pourquoi, il n'a pas été tellement. Il était amateur de danseuse. Il a eu une longue liaison avec la Camargo, qui est la grande danseuse de l'époque, et puis une autre avec Élisabeth le Duc, qu'il a fini par épouser dans un mariage morganatique, bien bourgeoisement. Il a fini ses jours à ses côtés, ce qui est pour un grand seigneur des Lumières assez modeste. Voilà comme parcours galant.
Il a créé la Société des Arts.
Il a créé la Société des Arts à 20 ans, effectivement, qui était une idée. L'idée était de trouver une application technologique aux découvertes encyclopédiques du siècle. Et en fait, il a tenté de... Bien sûr, il n'y est pas arrivé, ça n'a pas duré assez longtemps, mais il a tenté de réaliser ce que le 20e, ce que, dont le 18e siècle a rêvé et que le 20e siècle a naturellement réalisé.
Et des festivals de musique
Voilà, et pendant 20 ans, il avait disposé en tant qu'abbé de Saint-Germain-des-Prés du château de Berny, qui était la maison de campagne des abbés. Et pendant 20 ans, il a entretenu une troupe de musiciens, de comédiens, et il y avait des soirées tout le temps, qui étaient extrêmement courues dans Paris. Tout le monde allait dans cet opéra et ce théâtre privé du comte de Clermont, y compris Marivaux, qui a créé un certain nombre de pièces. Voilà, c'était assez couru, et notamment, on y jouait ces parades, ces
farces. Qu'est-ce que c'est qu'une parade, alors?
Alors, les parades, ce sont des spectacles de théâtre et de pantomime et de ballet, où on employait le jargon de la halle, et ça faisait rire une société de grands seigneurs qui voulait montrer par là qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Louis XVI était un grand amateur, et ça amusait beaucoup, c'était l'humour du XVIIIe siècle.
Et alors, pour revenir à son ami d'enfance Louis XV, ça s'est moins bien terminé, leur relation à la fin. Il s'est un peu opposé à Louis XV.
Absolument.
Pour quelle raison?
Alors, il est d'abord Louis XV, et ils ont un an d'écart, et Clermont est en 1709, Louis XV en 1710. Ils sont orphelins de père et de mère, donc ils sont camarades de jeu, tout simplement. Il faut bien que le jeune roi ait des camarades de jeu. Et ils seront très très liés toute leur vie, mais à la fin, Clermont prendra le parti des parlements dans la réforme Maupoux. Il va quelque peu se brouiller la dernière année de sa vie avec son cousin le roi, même si le roi fait quand même prendre de ses nouvelles quand la maladie l'atteint et dont il va mourir.
Alors la deuxième partie de ses occupations, si je peux me permettre ce mot, c'est que, finalement peut-être peu le savent, il était grand maître de la Grande Loge de France dès 1743. Alors là, peut-être qu'il faut, pour nos auditeurs et les férus d'histoire de la maçonnerie, peut-être rappeler deux, trois petits événements. Pourquoi 1743, peut-être pas voilà. 1728.
Alors, il y a une maçonnerie en France qui s'installe dans la première moitié du XVIIIe siècle, vers 1725, et qui porte un certain nombre de noms, Grande Loge des Maîtres de Paris, Ordre Illustre des Francs-Maçons, etc. Et il est élu par les Loges des Bourgeois de Paris, Grand Maître, en 1743, et il est installé à l'occasion de la Saint-Jean d'hiver, le mois de décembre 1743, et c'est là qu'apparaît et que se généralise le terme de Grande Loge de France. Voilà. Et il est à la fois pas le premier français, puisqu'avant il y avait eu effectivement le duc d'Antin, mais qui a passé peu de temps. Il est surtout élu parce que les maçons ont besoin d'un prince du sang. Il n'y a pas de loi 1901 sur les associations dont la maçonnerie n'est que tolérée. Donc on se met sous la protection d'un prince, surtout un prince du sang, le plus haut élevé dans la hiérarchie. Et en même temps, il est un grand maître français. C'est-à-dire que ça montre la coupure, l'indépendance que prend la franc-maçonnerie française par rapport à la franc-maçonnerie anglaise qui était effectivement à l'origine des premières loges.
Donc finalement, la franc-maçonnerie à l'origine, elle est très proche de la monarchie, elle est très aristocrate.
Bien sûr, alors il y a un mélange d'aristocratie et de bourgeois de Paris, et Clermont est vraiment très bien avec les deux. Mais oui, bien sûr, les maçons du XVIIIe siècle sont monarchistes, comme toute la France d'ailleurs, jusque même une partie de la Révolution, et naturellement catholiques, tout au moins chrétiennes déjà, et Clermont n'entend pas déroger effectivement à cette règle. Les maçons du XVIIIe siècle, contrairement à la légende, ne veulent pas préparer la révolution, ce qu'ils n'ont surtout pas fait. Ils veulent faire évoluer, bien sûr, les mentalités, le système, sous l'effet des Lumières, mais ils ne sont pas révolutionnaires, et donc il n'y a aucune incompatibilité à servir le roi et l'Église en même temps qu'on est maçon.
Alors, l'origine de la maçonnerie et de la République, c'est une
c'est beaucoup
une
plus
légende.
Tard. Alors, c'est une légende. Ce qui est une légende, c'est la Révolution. La maçonnerie n'est pas le complot, n'est pas un complot. La Révolution n'est pas un complot de la franc-maçonnerie. Ça, c'est une invention de l'abbé Lefranc, puis de l'abbé Baruel, cadet de Gassicourt. C'est arrivé beaucoup plus tard, au début du XIXe siècle. C'est après 1848, effectivement, que les maçons vont effectivement être républicains, se couper de l'Église aussi, mais non pas par anticléricalisme, parce que c'est l'Église qui a condamné la maçonnerie. En fait, l'Église a toujours été anti-maçonnique, mais les maçons n'ont pas été toujours anticléricaux.
Merci de le rappeler. Et alors, revenons à la Grande Loge de l'époque. Comment est-elle constituée? Comment c'était un assemblage, si j'ose dire, de petites obédiences.
Oui, voilà. Alors en fait, il y a une grande loge de France.
Lyon.
Voilà, certaines loges. En fait, là, il n'y a pas l'idée d'une grande loge centralisant ou plus tard d'un grand Orient. C'est une idée naturellement née sous la Révolution avec le centralisme jacobin administratif au XVIIIe siècle. On n'a pas du tout besoin de ça. Donc il y a un grand maître. Tout le monde reconnaît le grand maître, mais évidemment, chacun fait sa propre maçonnerie dans son coin, dans tous les endroits du royaume, y compris à Lyon, d'ailleurs, où il y aura une grande loge dissidente que Clermont va faire fermer. On n'est pas du tout, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de siège social, les maçons se réunissent dans les auberges, il n'y a pas de direction de la communication, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de siège. Voilà, tout ça, c'est évidemment impossible à penser au XVIIIe siècle, ça n'arrivera que beaucoup plus tard.
Louis XV a-t-il été initié?
Alors c'est la grande question. Est-ce que Louis XV a été initié dans la loge des petits appartements, comme l'a voulu probablement le chevalier de Ramsay? On dit que le discours du chevalier de Ramsay aurait été écrit pour l'initiation éventuelle de Louis XV, mais évidemment on n'a jamais pu le prouver. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est que Louis XV a toujours été favorable à la franc-maçonnerie à travers ses grands maîtres successifs, Dantin qui était un de ses amis et Clermont qui était son cousin. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là.
On peut peut-être rappeler ici le triste sort qui a été fait à la maçonnerie au moment de la Révolution.
Oui, la terreur a supprimé la franc-maçonnerie entre 1792 et 93. Et prétendre qu'il y a eu un complot est d'autant plus absurde que la maçonnerie a été la première victime. Alors, certains le croient encore, même des historiens de qualité croient encore à cette affabulation qui n'a absolument aucun fondement historique.
Ah, mais la maçonnerie, je pense qu'éternellement, ce sera source de légende et d'imagination.
Absolument, mais les maçons sont là aussi pour lutter contre les préjugés. Il faut aussi lutter contre les préjugés historiques.
Heureusement qu'il y a des historiens parmi nous. Alors, vous avez dit aussi, je vais peut-être faire un raccourci, mais nous pratiquons le rite écossais ancien accepté à la Grande Loge de France. Revenons sur le terme écossais. Est-ce que l'on peut dire que le comte de Clermont est à l'origine ou une des origines de ce que l'on appelle l'écossisme? Et pourquoi ce mot écossais?
Il n'a pas connu l'écossisme au sens où l'entend aujourd'hui, puisque le rite écossais n'a été effectivement que véritablement opérationnel qu'en 1804, mais il a fait partie de ce courant d'une maçonnerie spirituelle et relativement indépendante qui allait un jour être appelée écossaise, même si l'Écosse n'a pas grand chose à voir dans le processus.
Alors, c'est
un terme générique, un label, on pourrait dire. Alors, il y a plusieurs explications. Moi, je pense que la maçonnerie écossaise, c'est le fauné que les maçons français ont donné à leur maçonnerie pour se distinguer de la maçonnerie anglaise. Et avec la référence à l'Écosse, qui est le pays d'abord de la vieille alliance, bien sûr, entre les deux royaumes de France et d'Écosse, et puis le pays des mythes, des mystères, etc. Voilà, je pense que c'est tout simple.
Mais l'écossisme, alors au sens de, à l'époque, il n'y avait pas les 33 degrés du rite écossais ancien accepté, pour cause, du temps du comte de Clermont, il n'y avait que 25 degrés.
Voilà, donc, mais il y a quand même 25, effectivement, voilà, alors, et c'est sous Clermont qu'ils sont importés aux Antilles, puis aux États-Unis par Étienne Morin, qui d'ailleurs était l'exact contemporain du comte de Clermont. Je n'ai pas pu savoir s'ils s'étaient un jour rencontrés, mais ils meurent tous les deux la même année, en 1771, ce qui est quand même assez troublant.
Alors après, il y a eu l'apparition du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France, ces dénominations étant les dénominations actuelles, mais à quel moment ceci sera mot
Alors en 1771, le comte de Clermont meurt et un autre cousin, le duc de Chartres, fils du Orléans, va lui succéder à la Grande Maîtrise, toujours sur le principe qu'il faut un prince du sang à la tête. Et deux ans plus tard, en 1773, cette Grande Loge va devenir le Grand Orient sous l'effet de la Rochefoucauld-Liancourt, enfin bien tout le monde connaît l'histoire. Mais une partie de la maçonnerie des loges, 200, tout de même plus de 200 loges, refuse d'adhérer à cette nouvelle obédience et crée une grande loge, recrée la Grande Loge de France, qui va d'ailleurs être appelée pendant quelques années Grande Loge de Clermont, en souvenir d'un grand maître dont les maçons avaient gardé naturellement un très bon souvenir. Et ce qui fait que Clermont est le dernier grand maître d'un ordre unique en France. Voilà.
Dans votre livre, vous dites que le comte de Clermont, il a incarné le temps de la douceur de vivre et l'esprit des Lumières qui caractérise le 18e.
Voilà.
Qu'en reste-t-il?
Alors, il en reste bien sûr une belle image. On est effectivement dans une société extrêmement cultivée, extrêmement avide de savoir, de science, de lumière, d'art, de théâtre, de musique, de franc-maçonnerie, qui est un art finalement comme les autres. Et en même temps, d'esprit. Clermont est un homme d'esprit, c'est un ami de Voltaire. On s'amuse beaucoup chez lui. Et surtout d'un homme quand même dont la bienveillance et dont l'humanisme anticipe effectivement sur l'image qu'on a je l'espère, des francs-maçons aujourd'hui, c'est quand même un grand anticipateur de l'éthique maçonnique.
Alors l'image des francs-maçons aujourd'hui, c'est un autre sujet. Ça mériterait peut-être une émission entière.
Ça mériterait, voilà. Où sont les lumières aujourd'hui, avec ce qui se dit ici ou là, la montée de communautarisme souvent anti-rationnel. Effectivement, il faudrait d'urgence retrouver le chemin des lumières et à travers ceux qui ont ouvert la voie, comme le comte de Clermont, parmi d'autres, évidemment.
Ben merci Jean-Pierre de nous rappeler tous les bienfaits de cette personne qui est finalement d'actualité et auquel on doit pouvoir se référer. Pour terminer, je voudrais vous donner quelques petites informations de conférences publiques dont évidemment vous pouvez trouver tous les détails sur le site www.gldf.org. Des rencontres avec le grand maître Pierre-Marie Adam le 21 novembre à 20h, rue Puteaux à Paris, le 26 novembre à Brive à 20h et le 29 novembre à Strasbourg. Et puis, le samedi 30 novembre, bientôt, dans le cadre des rencontres Enjeux et Perspectives animées par l'ancien grand maître Alain Grézel, le 30 novembre à 14h30, il reçoit Monsieur Philippe Diribarne sur un sujet on ne peut plus d'actualité, islamophobie, anatomie d'une imposture. Venez nombreux, inscrivez-vous, il reste encore un peu de place et ce que vous allez entendre sera très intéressant, si je peux me permettre, ça m'a décoiffé. Le 7 décembre, à 14h, il y aura la journée de devoir de mémoire organisée par son président, notre frère Maurice Lévy. Il invitera, lui, Jacques Semelin. Et le thème, c'est « Il y a 75 ans, entraide et persécution ». Merci Jean-Pierre, merci Catherine Déreté à la technique et merci à Danny Journeau pour la réalisation. Et nous vous donnons rendez-vous le 15 décembre. Bon dimanche à toutes et bon dimanche à tous.